Le monde au féminin.
Hey you, over there. Please don't waste my time with that stare. Don't be looking, this piece is rare. I'm too cool for school, I know it's not fair.
Chères auditrices, chers auditeurs, bienvenue à l'écoute de l'émission hebdomadaire de VOA Afrique, Le Monde au Féminin. Nathalie Barge pour vous présenter des infos, dossiers et reportages relatifs à la jeunesse et aux femmes.
C'est dans la presse.
Le 4 juin 2021, les députés tchèques ont adopté un projet de loi octroyant des compensations financières à environ 400 femmes, principalement des Roms, qui ont été stérilisées de force entre 1966 et 2012. La réparation est de 12 000 euros pour chaque personne ayant subi une stérilisation imposée. Quelques hommes sont également concernés. Dans certains cas, les autorités avaient menacé de leur retirer leurs enfants ou les aides sociales. Les stérilisations forcées avaient commencé sous le régime communiste en ex-Tchécoslovaquie, mais se sont poursuivies pendant plus de deux décennies après 1989. La minorité rome est estimée à 250 000 personnes en République tchèque. Le chef de l'armée de l'air sud-coréenne a démissionné le 4 juin 2021 après le scandale causé par le suicide d'une femme sous-officier dont la plainte d'agression sexuelle contre un collègue avait été ignorée par la hiérarchie. Le général Lee Seong-yong avait déclaré se sentir une lourde responsabilité. La sergent-chef avait été contrainte de retirer sa plainte et d'accepter un accord négocié. Comment pouvez-vous prétendre défendre tout un pays quand vous n'êtes même pas capable de protéger un membre de votre armée? S'était indignée la mère de la victime. Plus de 350 000 personnes avaient signé une pétition adressée à la présidence réclamant une enquête sur les accusations d'agression sexuelle et un suspect a été arrêté. Le 26 mai 2021, la Brésilienne Edina Alves a été la première femme à arbitrer un match de Copa Libertadores en Amérique latine. Le quatuor arbitral était même entièrement féminin, car Alves était assistée de sa compatriote Neuza Bach et de la chilienne Cindy Nayuelcoy, avec une autre chilienne, Maria Belén Carvajal, en tant que quatrième arbitre. Les femmes étaient aussi représentées dans d'autres fonctions, avec la brésilienne Ana Paula Oliveira, en charge de l'assistance conseil vidéo, et l'argentine Sabrina Lois, comme déléguée arbitrage de la Confédération sud-américaine. En Europe, Stéphanie Frappard avait été la première femme à arbitrer un match de Ligue des Champions en décembre 2020, après la Suissesse Nicole Pétignat, qui a été la première à officier en Coupe d'Europe masculine en août 2003. En réponse au vieillissement de sa population, la Chine autorise les familles à avoir 3 enfants contre 2 au maximum auparavant. Le dernier recensement décennal a révélé une forte baisse du taux de natalité. En 2020, le nombre de naissances est tombé à 12 millions contre 14 650 000 l'année précédente. Après plus de 3 décennies de politique de l'enfant unique, la Chine a permis un deuxième enfant en 2016, sans toutefois parvenir à faire redémarrer la natalité. Le pays le plus peuplé du monde comptait l'an dernier plus de 264 millions de personnes de plus de 59 ans, une hausse de plus de 5% par rapport à 2010. En mars dernier, le Parlement a voté un projet de relèvement progressif de l'âge de la retraite au cours des 5 prochaines années.
Parole de femme.
L'art pour dénoncer les violences faites aux femmes, c'est l'objectif de Zainab Fasiki, pionnière de la bande dessinée féministe au Maroc. S'inspirant du mouvement MeToo, elle veut aider les artistes à trouver des réponses créatives aux réactions négatives générées par une campagne contre le viol intitulée Tahana MeToo. Abdourahmane Dia nous en dit plus.
Parler ouvertement du viol est tabou au Maroc comme dans beaucoup d'autres pays du continent. Mais pour Zainab Fasiki, tout doit commencer par l'amour de son corps.
Alors normalement, j'ai commencé par me dessiner moi-même et après, ça a devenu un combat pour le corps en général. Et c'est pour cela, dans Shoma, mon livre, on voit une diversité de corps, on voit tout ce qui est pilosité, tout ce qui est taille de corps. Parce que mon message, c'est aussi le corps, on doit l'aimer comme il est, naturellement. Sans la pression de male gaze, de l'industrie de beauté, des magazines, des pubs.
Le combat féministe de Zainab date de son adolescence. Depuis, elle se sert de son art pour essayer de contribuer au changement des mentalités.
Je suis fièrement féministe depuis l'âge de 14 ans, mais je le suis artistiquement dès l'âge de 20 ans, je pense. Et en fait, je me considère comme artiviste parce que c'est un néologisme qui veut dire être à la fois artiste et activiste. Et donc, je suis contente que l'art est devenu aussi un outil de changement politique et social.
Son dernier projet tacle le sujet du viol. Elle travaille avec d'autres artistes pour faire passer le message. Mais pour les victimes, il est plus difficile de s'exprimer ouvertement sur le sujet. Tahana MeToo leur garantit l'anonymat.
Tahana MeToo s'inscrit dans tous les projets que nous avons lancés à Jaujab de libération de la parole féminine. Mais libération de la parole féminine ne veut pas dire pour autant visibilité des femmes. Je m'explique. Ces capsules sont anonymes pour la simple et bonne raison que toutes ces femmes qui ont été victimes de viol craignent en fait de témoigner à visage découvert parce qu'elles ont peur des représailles.
Zainab Fasiki dit vouloir corriger cette culture de viol selon laquelle la victime mérite ce qui lui est arrivé alors que le criminel est innocent. Elle compte sur son art pour y arriver grâce notamment à la puissance de l'image et à la magie des réseaux sociaux, même si certaines féministes n'approuvent pas sa méthode qui consiste à dessiner le corps de la femme.
À Djibouti, les changeuses de monnaie sont partout et jouent un rôle prépondérant dans une économie majoritairement informelle. Il s'agit pour elles d'un emploi accessible dans un pays où les femmes sont moins alphabétisées que les hommes. Lionel Gaïma nous en dit plus.
Assise à chaque coin de rue de Djibouti-ville, la besace remplie d'argent. Ces femmes sont des sariflées, des changeuses de monnaie. Elles ont sur elles tout type de devises, francs djiboutiens, birres éthiopiens, euros et dollars. Noura s'est lancée dans cette activité il y a 10 ans avec les économies du ménage après le décès de son époux.
On est au courant des taux de change parce que notre banque nous donne cette feuille, c'est gratuit. C'est avec cette feuille qu'on connaît les taux de change, le dollar, l'euro, le dollar canadien.
Elles sont des dizaines à Djibouti à faire ce travail. Il permet à des femmes parfois analphabètes de gagner leur vie. À Djibouti, pays qui compte moins d'1 million d'habitants, le taux d'alphabétisation des femmes est de 43%. Medina, l'une des changeuses de monnaie.
Le travail est convenable, c'est mieux que d'être au chômage. Tu travailles, ça te sert de gagne-pain pour nourrir tes enfants. En étant assise ici, tu as une rentrée d'argent. Tu n'as pas besoin de mendier auprès de qui que ce soit. Tu travailles par tes propres moyens.
Dans son sac à main, Medina pense avoir ce jour-là 1 million de francs djiboutiens, soit 5 700 dollars environ, une somme conséquente, et pourtant, selon Zara, sa collègue, ce métier ne comporte aucun risque.
Celui qui vole de l'argent ne vient pas à nous. Ils en perdent. Ils ont beaucoup, n'est-ce pas? Il ne vient pas. Si moi, celle, il va venir.
Toujours travailler en groupe et s'entraider, c'est la clé du succès. Dans le quartier populaire de PK12, vous pouvez aussi retrouver ces agents de change. Ce quartier est connu pour avoir beaucoup d'Éthiopiens et le bir est monnaie courante. Les chauffeurs de tuk-tuk, vendeurs de cartes ou commerçants doivent changer de l'argent tous les jours. La banque la plus proche est trop loin. Les sariflés sont donc le moyen le plus rapide et le plus efficace. Faïsa, une vendeuse de cartes.
Dans 90% des cas, c'est mieux de faire le change avec elle plutôt que de changer à la banque. Elles cherchent un peu de gagne-pain pour aider leur famille et nous aident à avoir le change.
L'économie informelle, c'est 2/3 de l'activité globale à Djibouti, un poids lourd de l'économie du pays, tenu en grande partie par ses femmes.
La Ligue professionnelle nord-américaine de rugby à 7, première Rugby Sevens, prônant l'égalité entre joueurs et joueuses, fera ses débuts cet automne. La PR Sevens assurera l'égalité des salaires et l'accès à la haute performance sous l'égide d'une seule ligue, adoptant un format de tournée avec ses stars dans les villes des États-Unis et du Canada. Elle comprendra 6 équipes masculines et 4 féminines qui joueront plusieurs matchs dans un même lieu. La PR Sevens a attiré dans ses rangs notamment Perry Baker et Danny Barrett, ainsi qu'Ilona Maher et Naya Tapper chez les femmes.
Si je ne pouvais.
Au Gabon, l'éducation environnementale s'invite à l'école. Dans le cadre d'une vaste campagne de sensibilisation sur la protection de la nature et de ses écosystèmes, une ONG locale sillonne les établissements scolaires de Libreville pour inciter le monde de l'éducation à s'approprier le concept de développement durable. Un reportage d'Ismaël Obiangze.
C'est un jour de classe inhabituel pour ces élèves de l'école Gros Bouquet 1 de Libreville. La leçon du jour porte sur la protection des mangroves. Marielle Zoura, 9 ans, est élève en cours moyen, deuxième année.
Je suis contente d'être venue à ce cours parce que ça m'a appris plein de choses sur la mangrove. Il ne faut pas polluer si on veut toujours avoir de l'oxygène parce que la mangrove, c'est comme un troisième poumon pour nous. C'est ce qui nous permet d'avoir beaucoup d'oxygène.
Guy Badinga est un autre élève qui vient de découvrir que l'écosystème des mangroves représente un site de reproduction de nombreuses espèces halieutiques.
Je sais que les mangroves jouent un rôle très important sur notre environnement, sur l'écosystème et sauvent des centaines de petits poissons, de reptiles.
Pluméria est à l'initiative de ce projet de sensibilisation des élèves à l'éducation environnementale. L'ONG spécialisée dans la protection des écosystèmes marins amène l'école à jouer un rôle essentiel dans la formation des citoyens respectueux de la nature. Loïc Etougué de l'ONG Pluméria.
Nous, ça nous a permis d'aller plus facilement et c'était vraiment bien. Les enfants, ils étaient très éveillés et tous, au moins, ils connaissaient déjà plus ou moins ce que c'est cet environnement sensible qu'est la mangrove.
Selon Arnaud Nodon, les actions de sensibilisation de son école en faveur de la protection de l'environnement vont au-delà de cette grande rencontre avec l'ONG Pluméra.
Et on les sensibilise aussi sur le problème des déchets par rapport au milieu naturel. Donc automatiquement, même après l'intervention de l'association, nous on continue à travailler avec les enfants.
Depuis quelques mois, l'école de Gros Bouquet 1 s'est mise au vert. Potager, ferme avicole et une petite unité de recyclage des déchets font désormais partie du jardin de cet établissement que dirige Julien Carrier.
Nous avons cette base solide dans l'école, ce qui va permettre de se poursuivre. Et depuis cette année, nous avons énormément d'intervenants dans l'école qui permettent de sensibiliser les élèves sur énormément de points différents. Donc là, nous ne sommes qu'au début de cette démarche, puisque chaque année, nous rajoutons une pierre à l'édifice.
L'un des plaidoyers des ONG comme Pulmerin est d'obtenir du gouvernement l'enseignement des questions environnementales dans les programmes scolaires. Libreville, Ismaël Obionzé pour VO Afrique.
Au Bénin, plus rien ne sera comme avant dans la déclaration de naissance. Il est désormais exigé au père l'attestation de paternité avant la naissance d'un enfant. L'idée est de sécuriser les naissances et de prévenir de nombreuses difficultés liées à l'établissement de l'acte de naissance et au refus de paternité. Les précisions sur cette loi qui agite les réseaux sociaux au Bénin, dans un reportage de Ginette Fleuradandé.
Une reconnaissance sur l'honneur, un acte de reconnaissance de paternité quand on n'est pas dans la ligne du mariage. Voilà établi les préalables pour les parents, particulièrement pour le père d'un enfant à naître. Cyril Goubedi est le gestionnaire mandataire de l'ANIP, l'Agence nationale d'identification des personnes. Il explique que ce n'est pas en soi une sanction, mais une volonté manifeste du législateur de protéger l'enfant.
La reconnaissance de paternité est un acte de volonté unilatérale de l'émettant, acte par lequel il déclare être le père de cet enfant.
La disposition n'est pas nouvelle. Le Code de l'enfant voté en 2015 l'a clairement défini dans ses articles 141 et 148. Les parents se réjouissent que cette loi soit remise sur la table pour mettre les pères devant leurs responsabilités.
J'ai trop apprécié et ça me va droit au cœur parce que une grossesse qui s'avantage comme ça, c'est pas bien.
C'est très bien, c'est bien, c'est très bien. Le gouvernement a fait sortir une loi très bonne. Je suis très content même de lui.
Ça permet non seulement de donner un nom à un enfant, de lui donner une identité, mais au-delà de ça, la reconnaissance permet à un enfant de rentrer dans la famille de son géniteur.
Mais pour d'autres, bien que l'idée soit bonne, cette loi comporte de nombreuses faiblesses et pourrait engendrer bien plus de conflits qu'elle ne pourrait en régler.
Moi, je suis contre cette loi qui donne à la femme trop de pouvoir. Si une fille impose à un homme une grossesse qui n'est pas la sienne, si parce que j'ai les moyens, une fille vient m'imposer une grossesse, je fais comment? Le gouvernement a pensé à ça? Si après naissance, je fais des tests qui prouvent que je ne suis pas le père. L'enfant qu'on veut coûte coûte protéger se retrouve ou pas en danger. Je crois qu'il y a des subtilités de garde-fou qu'il faudra mettre si la finalité de cette loi est de protéger les enfants.
Moi, je trouve que c'est à plus de force que de faiblesse. Sérieusement, quoi. Il faut le repenser autrement, sinon, c'est maintenant que de nombreux enfants seront sans père et auront difficilement un acte de naissance.
Annabelle Kindi est sage-femme en milieu rural. Pour avoir vu des femmes enceintes déboussolées, solitaires, elle pense que cette loi est la solution qui permettra de régler de nombreuses situations inconfortables.
Je dirais aux jeunes de respecter cette nouvelle loi parce que pour éviter beaucoup de choses, et il ne faut pas engrosser sa femme ou bien une fille et la laisser seule face aux procédures de délivrance date de naissance. Il faut assumer maintenant la responsabilité du père dès la grossesse jusqu'à l'accouchement.
Et elle n'est pas la seule. Pour Claver N. Point qui a perdu ses trois enfants parce qu'un test ADN a fini par lui donner la pire nouvelle qu'un père peut recevoir après plus de 10 ans de paternité, la loi mettrait certaines femmes indélicates à leur place.
Dans la vie actuelle maintenant, là, il y a des gens que, bon, après 30 ans ou bien 50 ans, on te dit que, bon, la femme dit que c'est pas ton enfant ou bien, et ça amène des problèmes que, bon, alors que maintenant, ce que le gouvernement a amené, c'est bon. Parce que déjà, si c'est pas son enfant, il n'y aura pas l'autorisation d'aller prendre ses jusqu'à deux. Selon moi, c'est une bonne chose.
Au nombre des difficultés que pourrait rencontrer l'application de cette loi, il y a les obligations financières. La prise de la déclaration de reconnaissance de paternité est subordonnée à la présentation du certificat d'identification personnelle qu'il faudra établir après avoir obtenu son acte de naissance sécurisé. Il faudra débourser au moins la somme de 3 800 francs CFA. C'est l'une des raisons pour lesquelles la loi fait jaser au Bénin. De Cotonou, je n'ai plus à donner pour VOA Afrique.
Le monde au féminin de VOA Afrique, une émission taillée sur mesure pour toi, à travers le regard des femmes et des jeunes.
Selon une étude récente, les Togolais ne sont pas très portés sur les applications mobiles locales, car ces dernières ne répondent pas vraiment à leurs besoins. Dans le pays, quelques applications séduisent toutefois les utilisateurs. Les applications Made in Togo et leur perception par la population dans ce reportage de Kay Lawson, qui a tendu son micro à plusieurs femmes.
L'utilisation des applications Made in Togo se limite à quelques domaines précis. Ce sont les résultats d'un sondage réalisé sur les applications mobiles et web développées et utilisées au Togo qui l'indiquent. Emefa Pegba, responsable de E-Technopole qui a participé à cette étude, revient sur les résultats obtenus.
Les Togolais utilisent certaines applications togolaises, des applications qu'ils jugent utiles aux besoins. Il télécharge, il l'utilise et après, il peut encore désinstaller. Donc, en gros, il y a des applications dans les domaines des transports, des logistiques, les banques, finances, assurances, santé aussi, qui sont utilisées.
Dans le domaine de la santé, cette jeune mère de 2 enfants a eu un coup de cœur pour une application.
J'utilise surtout et surtout l'application Santé Plus, parce que chaque fois il fallait aller sur internet, taper quelles sont les pharmacies de garde, quels sont les hôpitaux qu'on a un peu dans les environs, et surtout vu que j'ai une assurance santé, quel hôpital, quelle pharmacie était conventionnée ou non. En tout cas, Santé Plus, ça a été une découverte pour moi et je ne m'en passe plus.
Le top des applications utilisées au Togo est dans le transport et la logistique.
L'application Gozem m'aide beaucoup dans mes courses. C'est une application qui permet à ce que votre chauffeur vienne directement chez vous, vous chercher pour vous déposer à un point donné. Ça vous évite d'aller rester au bord de la route.
J'ai installé Gozem il y a 1 an. Ma voiture était au garage et j'avais besoin de me déplacer. C'est comme cela que j'ai commencé à utiliser Gozem.
Je suis très habituée à l'application Gozem. C'est le Uber togolais en fait.
J'utilise plusieurs applications togolaises, notamment Gozem pour des livraisons pour manger de temps à autre. J'utilise également Kaba pour quelques petites livraisons rapides.
Seti Afanou, développeur d'applications, nous édifie sur quelques aspects qui concourent au succès d'une application sous nos cieux.
Ici en Afrique, je dirais le succès d'une application réside en fait dans l'ergonomie de l'application, la valeur ajoutée et aussi la convivialité de l'application. Mais sans oublier aussi la manière dont l'application gère les ressources matérielles. Si l'application est très gourmande en termes de ressources internet, ça peut aussi bloquer tes utilisateurs à vraiment l'adopter.
Ces applications ne convainquent pas toujours.
Ce qui est un peu embêtant avec l'utilisation de l'application, c'est qu'une fois que vous avez lancé votre commande de taxi, le chauffeur vous appelle pour avoir des précisions quant à votre situation géographique, alors que normalement, avec la géolocalisation, cet appel ne devrait pas être.
J'ai eu 4-5 fois commandé un repas de restaurants différents. La commande est arrivée chaque fois en retard, très en retard. Du coup, le repas est froid, désagréable à manger.
J'ai déjà téléchargé plusieurs applications parce que parfois juste que l'application vend ce qu'elle ne contient pas.
Sur les exigences des Togolais en termes d'applications, nous retrouvons Emefa Pegba de E-Technopole.
Les Togolais veulent bien utiliser des applications, mais des applications qui leur rendent service et qui leur facilitent la vie. Il faut vraiment que les innovateurs utilisent des technologies adaptées et moins gourmandes en data et en stockage.
Le constat relevé par ce sondage est qu'il n'y a pas assez d'applications Made in Togo qui répondent spécifiquement aux vrais besoins des Togolais. Kay Lawson, Lomé, VOA Afrique.
Le monde au féminin, c'est tous les mardis et samedis à 19h05, temps universel. C'était Nathalie Barge avec vous. On reste en contact. Bon courage et à très bientôt.
Arrête.